La pandémie COVID-19 teste le niveau de résilience des organisations du monde entier. EY aide à trouver des solutions qui peuvent être utiles pendant ces crises. Ils font ça avec un tool qui s'appelle le Resilience Tool. Nous sommes allés parler avec
Marie-Laure Moreau, audit partner chez EY depuis 29 ans et aussi responsable EY pour la Wallonie.
Et
Marc Erland, partner chez stratégie chez EY Parthenon dans Strategy and Transaction, 25 ans d'expérience dans le conseil.
Et Marc, c'est quoi en fait le tool?
L'ERT, le Enterprise Resilience Tool, d'abord c'est Enterprise, c'est à travers tous les domaines de l'entreprise. On va regarder la résilience, mais sous différents angles. Il y a talent and workforce, il y a risque, il y a encore d'autres aspects. Je ne vais pas tout laisser énumérer ici. Il y a une série de domaines fonctionnels sur lesquels il y a un ensemble de thèmes et de questions de diagnostic. Donc ça, c'est en quoi consiste le tool. C'est un tool global et donc nous avons derrière une grande base de données qui permet également de donner des points de comparaison. C'est aussi un tool très intéressant parce que ce n'est pas un outil d'audit, c'est un outil d'auto-évaluation, donc dans lequel les cadres de l'entreprise qui participent vont passer d'abord entre eux, par eux-mêmes, à travers les différentes dimensions du tool et se donner un score, mais c'est surtout la motivation derrière le score qui va être intéressante et qui va être la base d'un bon dialogue. Alors le tool a été conçu dans le cadre de la crise Covid, dans un premier temps pour voir est-ce que vous êtes équipé pour traverser, pour répondre à cette crise et la traverser en restant une entreprise prospère. C'est un tool qui a été développé sur base de notre expertise passée en matière de gestion de crise, de restructuration, de transformation. Mais c'est un tool qui est aussi prospectif, puisque quand on rentre sur une discussion de résilience, on s'aperçoit qu'au-delà de la gestion de la crise, on commence à poser un certain nombre de questions vraiment stratégiques par rapport à une résilience à plus long terme, puisque c'est le « now, next and beyond ». Qui entre en jeu. Et le tool permet, sur base de ces dimensions multidisciplinaires, d'entamer des discussions avec le client, puisqu'évidemment, c'est eux qui mettent en avant les domaines dans lesquels ils sentent qu'ils doivent pouvoir progresser ou qu'ils ont des faiblesses à adresser.
Et comment est-ce que cette idée est formée?
En fait, en tant que GCSP du groupe Carmeuse, je me rends compte que Carmeuse n'est pas un client d'EY, mais qu'on voudrait rentrer davantage en relation avec cette entreprise importante wallonne. Et on était en pleine crise Covid. Et sur cette base-là, j'ai proposé à Rodolphe Collinet, l'actionnaire et le CEO du groupe Carmeuse, de faire un exercice de résilience de son groupe pour que lui comprenne comment ils réagissent face à la résilience en pleine crise Covid et pour qu'ils puissent aussi se benchmarker par rapport à son secteur. Pourquoi je lui ai proposé, c'était quand même dans un intérêt aussi, je vais dire personnel pour EY ou un intérêt d'équipe, c'était pour bien connecter toutes les équipes EY qui étaient intéressées de rencontrer le groupe Carmeuse pour pouvoir bien se connecter avec les différentes personnes chez Carmeuse qui sont en charge des différents sujets qui sont abordés dans l'exercice de résilience.
Mais une crise, ça peut avoir plusieurs formes. Maintenant, c'est la Covid, mais vous savez me donner un autre exemple d'une crise?
Oui, alors évidemment, je ne peux pas donner un exemple d'une crise future. Il y en aura sûrement qui nous surprendront à bien des égards. Mais les crises ont toutes deux choses en commun. La première, c'est qu'elles sont imprévues. Et la deuxième, c'est qu'elles ont des effets considérables. Donc, on parle d'événements qui affectent l'ensemble de l'économie, l'ensemble de la planète, en cas du Covid, qui ont des gros effets et qu'on n'a pas du tout vu venir. La crise financière en 2008, pour donner un autre exemple, complètement différente, mais finalement, en effet, pas vu venir. Ce n'était pas prévu dans les modélisations financières et on n'avait pas compris avant quels seront les effets, mais ils ont été considérables avec la faillite de Lehman Brothers, etc. Et donc des impacts en cascade dans une variété de secteurs, ce qu'on observe de nouveau ici dans la crise du Covid. Certains secteurs beaucoup plus touchés que d'autres, mais il y en a comme l'hospitalité, le transport, où ce ne sera plus jamais comme avant, on peut déjà le dire. Et donc le Resilience Tool on va peut-être lui donner un autre nom et l'adapter dans une crise future, mais il a ceci d'intéressant qu'au-delà du Covid, il permet d'aborder des sujets stratégiques, multidisciplinaires avec nos clients. Tout l'arsenal qu'on a autour du Resilience Tool en matière de gestion de crise peut être également très, très utile, indifféremment d'une période de crise ou pas.
Des crises se trouvent partout dans le monde. Je peux m'imaginer que le Covid n'est pas la seule crise qu'EY a dû aider avec.
Globalement, il y a plusieurs centaines d'entreprises qui ont participé au Resilience Tool. C'est ça qui donne l'intérêt de la base de données des points de comparaison. Pour Carmel, c'est plus difficile, c'est le secteur de mining. Dans le monde, il y a peu d'entreprises qui ont cette caractéristique-là. Néanmoins, on les a aussi recomparées sur un certain nombre de points avec avec une perspective plus globale. Mais oui, et en Belgique, nous avons également eu un certain nombre d'entreprises qui ont été intéressées par la démarche.
Et que faites-vous quand vous faites une surveille une deuxième fois ?
D'abord, on reproduit tout ce qu'on a fait de bien, c'est-à-dire répliquer et réenvoyer ce survey. Ce qui a intéressé Carmeuse notamment, dans Carmeuse, il y a deux sous-groupes, le groupe de l'Amérique du Nord et le groupe de l'Europe. Pour un CEO, c'est important de savoir comment font ces filiales et ces deux sous-groupes, et bien comprendre comment ils réagissent et comment ils sont résilients face à cette crise. Ça, c'est la première question. Et comment on peut les comparer par rapport au benchmark dont Marc vient de parler. Et donc, il faut reproduire, d'envoyer le survey à des grands groupes internationaux et essayer de choisir, comme on l'a fait chez Carmeuse, deux sous-groupes où il y a deux COMEX différents. Également, mener les discussions avec les COMEX des deux sous-groupes. C'était très intéressant pour tous les experts EY d'être connectés pour pouvoir mener ces discussions. On a en fait discuté des résultats de la résilience, d'abord dans un premier temps avec le sous-groupe nord-américain et puis dans un deuxième temps avec le sous-groupe européen. Mais comme autour de la table, il y avait une bonne dizaine de personnes, et ça je répliquerai de nouveau, venez dans ces réunions à 3-4 personnes d'experts très relevantes dans les thématiques où ils sont les plus faibles. Ne venez pas à plus que 3-4 personnes, parce que ça ne sert à rien de venir avec une armée face à un client qui vient, lui, avec 5-6 personnes. Donc ça, je répliquerai. Et puis, ce qui est intéressant dans cette discussion, c'est que parfois, il y a certains topics qui étaient discutés, mais on ne pouvait pas, dans un grand groupe de plus de 10 personnes, aller en détail sur le sujet. Et donc, certains experts EY ont repris des rendez-vous. Donc, c'est vraiment à refaire. À la fin, on a eu une sorte de réunion de débriefing alors, avec le groupe COMEX. Et là, quelque chose que je recommanderais de ne pas refaire, en tout cas qui n'est pas nécessairement, c'est une lessons learned sur l'enquête résilience chez Carmeuse, c'est de ne pas trop vite venir avec des solutions EY qui répondent à leur faiblesse. On ne doit pas prétendre que chez EY, on connaît tout, on peut répondre à tout, et peut-être que là, on était un peu trop vite avec cette réponse.
Comme je disais un peu dans l'introduction, le tout a été développé en réponse à la crise Covid et à la résilience à court terme dans un premier temps. Mais la nature du dialogue qui est installé, c'est un dialogue qui effectivement suit le now, next and beyond. Et ce qui s'est passé avec la crise et ce qu'on a vu chez nos clients, chez la grande majorité des entrepreneurs, on a pensé now, on a pensé next, on n'a pas pensé beyond. Est-ce que d'abord, mon personnel va pouvoir survivre, ne pas être malade. Mais derrière ça, il y a des transformations complètes du paysage économique. La crise du Covid, elle est très asymétrique. Il y a des secteurs beaucoup plus touchés que d'autres. Il y en a qui sont dévastés. On peut se dire que le transport ou l'hospitalité ne seront plus jamais comme avant. Et il y en a qui en tirent grand avantage, comme le e-commerce, pour prendre l'exemple bateau. Et donc ça, c'est le genre de discussion qui s'inscrit en marge d'un outil comme le Resilience Tool, parce qu'en posant la question de résilience, on ne pose finalement pas une question de survie à court terme. Il sera trop tard pour ceux qui n'étaient pas prêts à traverser la crise, mais on pose une question de succès à moyen et long terme.
Est-ce que c'est important de vraiment connaître le client ?
Je crois que non, c'est pas mutuellement exclusif. On connaît jamais un client mieux qu'il se connaît lui-même. On peut connaître un client très bien, mais ça veut dire qu'on a déjà beaucoup travaillé avec lui. Mais ce qui est important, c'est de connaître l'environnement dans lequel le client change. Et cet environnement n'est pas figé. Sinon, tout ça, notre métier n'aurait pas d'intérêt. Mais en connaissant cet environnement, nous sommes des partenaires, et en le comprenant, et en comprenant la position relative de notre client, nous sommes des partenaires privilégiés pour penser avec eux. La valeur n'est pas dans la solution, mais dans le trajet qu'on passe ensemble avec le client pour réfléchir ensemble à la solution, à son contour, à son profil. Et pendant ce trajet, oui, le tool va permettre de mieux comprendre le client et de mieux le connaître. Ce n'est donc pas mutuellement exhaustif, mais on ne vient pas avec l'arrogance de dire au client qu'on le connaît mieux qu'eux et qu'on sait ce qui est bon pour eux. C'est une démarche que je cautionnerai jamais, ni dans le privé, ni dans l'entreprise.
Et qu'est-ce que le CEO a appris avec le tool ?
Qu'est-ce qu'il a appris ? On a en tout cas, on lui a expliqué quelles étaient les faiblesses des deux groupes. Je pense qu'on n'a pas amené de grands points, mais certainement ça a permis pour lui de bien structurer sa réflexion. On a compris qu'ils avaient vraiment un besoin en termes d'analyse de risque, également sur toute la digitalisation. Les équipes d'Anne dans le consulting ont été en contact aussi avec eux sur tout ce qui est trajet client, digitalisation du trajet client, de la supply chain, également digitalisation des équipes de ressources humaines. Et également tout ce qui est innovation, donc l'innovation que ce soit des marchés, parce qu'ils cherchent toujours à s'étendre plus à l'international, mais également de leurs produits, et également les enjeux de décarbonation qui intéressent nos équipes de notre département CICAS.
Est-ce que c'est un tool qui fonctionne seulement avec des grandes entreprises ou aussi avec des PME par exemple ?
Non, je pense que c'est un tool qui répond vraiment à tout type d'entreprise, tant les grandes que les PME, parce que comme Marc l'a expliqué, ça aborde 9 ou 10 aspects, notamment tout ce qui est supply chain, tout ce qui est client, tout ce qui est RH, talent, well-being, comment les gens se sentent par rapport à cette crise du Covid, comment ils utilisent les outils Teams, par exemple, et comment on garde les gens motivés. Également tout l'aspect gouvernance. Donc tous ces aspects-là sont des aspects qui sont dans toute société, que ce soit une PME ou une grande entreprise. Donc c'est vraiment intéressant de le faire pour tout type de structure. Pourquoi ? Aussi parce que c'est un outil qui n'est pas très compliqué à mettre en place. En fait, ça prend en 30 et 45 minutes pour une personne de compléter l'enquête. Et donc, si on demande à un groupe de l'entreprise de répondre à cette enquête et on combine les résultats pour connaître le résultat final, c'est intéressant pour un CEO de connaître le résultat final de son entreprise, même si c'est une PME, et en plus de le benchmarker avec son secteur. C'est un rapide overview de la maturité d'une entreprise par rapport à sa résilience, et peu importe l'entreprise. Je ne le ferai pas dans une start-up ou dans une scale-up, mais dans une entreprise, une PME mature, ça vaut la peine de le faire. En fait, nous, on n'audite pas la manière dont ils scorent leur maturité. On les laisse scorer eux-mêmes, c'est leur sentiment, et on ne porte pas de jugement sur la manière dont ils s'évaluent. Mais ça permet d'avoir des discussions. Ce n'est pas un tool qui vient avec des solutions. On n'est pas en train de leur dire... vous n'êtes pas mature et vous devez faire ça. C'est un tool qui permet de se faire leur self-assessment et de le comparer à des pairs. Et donc, est-ce mesurable ? Il y a une échelle de 1 à 10. Est-ce que les gens sont happy ? Est-ce que le well-being est bon ? Bah, peut-être que certains seront plus sévères que d'autres. D'ailleurs, dans le groupe Carmeuse, on a vu clairement que les Américains étaient plutôt des gens très confiants et avaient tendance à bien scorer l'entreprise, alors que les Européens sont plus modestes. Il y a aussi une question parfois de culture d'entreprise. Mais peu importe, ce n'est pas ça l'important. Peu importe le score, l'intérêt de l'outil, c'est vraiment de mener des discussions sur là où eux, ils se sentent plus faibles.
Maintenant qu'on connaît un peu plus le Resilience Tool, il est temps de un peu mieux connaître Marc et Marie-Laure. Nous, on le fait avec notre propre tool, les questions terrestres. Marie-Laure, avez-vous déjà conversé avec un entrepreneur qui vous a complètement époustouflé ?
Oui, moi j'aime beaucoup entendre les histoires des entrepreneurs. Et il y en a beaucoup qui m'ont époustouflé. Mais je vais en prendre une. Il s'agit d'un ami maintenant qui, au départ, était un vendeur de légumes. Et en voyant son épouse qui, elle, vendait des vêtements, il s'est dit qu'il y avait quand même plus de marge dans le secteur des vêtements que des légumes. Et donc, il a construit son entreprise. Il l'a basée d'abord en Turquie avec une ligne de fabrication de textiles en Turquie. Maintenant, c'est devenu un grand groupe mondial. Actif beaucoup en Chine, évidemment, en Asie, mais également aux États-Unis, un peu partout. Et je trouve que pas commencer comme vendeur de légumes et terminer avec un grand groupe qui engage plus de 20 000 personnes, ça m'a vraiment époustouflée.
Et Marc, vous souvenez-vous du tout premier demande d'emploi que vous étiez allé ?
Moi, je me rappelle très bien, j'avais postulé dans une agence de publicité. Je trouvais ça très, très cool. Et j'étais interviewé avec une dame assez sévère. Mais je pensais que ça se passait bien. Et puis, à la fin d'un entretien, elle m'a regardé. Elle me dit, Monsieur Erland, vous avez d'autres questions ? Je veux savoir la suite. Elle me dit, vous pensez qu'avec une telle performance, il y aura une suite ? M'a-t-elle dit, je vais vous dire, vous êtes peut-être quelqu'un d'intelligent, mais vous vous vendez très très mal et je vous conseille de faire des progrès là-dessus si vous voulez trouver un job. Donc,
ah bon, bah, t'as bien évolué,
Marc. Je suis sorti un petit peu
déçu. T'as bien évolué, je crois.
C'est gentil, ça prend du temps.